C'est pas David. Alors, comment on peut baisser ça? Je l'ai juste devant les yeux, alors je ne pourrais pas lire ma prédication. Voilà, c'est, je préfère. Vous m'entendez là, ça va? Alors, nous sommes actuellement 3 jours après l'Ascension. Et donc, 7 jours avant Pentecôte. Je m'appuierai donc sur ce passage des Écritures qui se trouve entre l'Ascension et Pentecôte. C'est clair, là, vous y voyez ? C'est moi qui ne vois pas trop. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Pardon, non. Où ils se tenaient d'ordinaire. Où est-ce que je suis là? Quelqu'un a des loupes là? Jean, Jacques, André, Simon, voilà, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva du milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. À la presbytie. Donc, Jésus fait d'abord une promesse aux disciples, celle de recevoir le Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas du tout ce que cela signifiait. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir le Saint-Esprit ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dans la chambre haute, les 120, ils ont prié tous, il est écrit, d'un commun accord, et ils persévéraient. Le don du Saint-Esprit leur fut donc donné à la Pentecôte, et il fait suite à la foi persévérante. Certes, aujourd'hui, le Saint-Esprit a déjà été donné à l'Église, mais il peut toujours nous remplir à nouveau et déverser sur chacun de nous son onction de grâce et de paix. Laurent, dans son message en février, message qui commençait notre cycle sur les cultes préparant Pâques, nous a parlé de ce réveil à Asbury. Donc, dans une université américaine, dans le Kentucky, à Asbury. Ce réveil a commencé de manière toute simple, sans y avoir été préparé. Ce n'était pas un rassemblement prévu en vue d'un réveil, pas d'organisation préparatoire, pas de publicité médiatique au préalable. Il a surpris tout le monde. Né dans une église méthodiste le 8 février de cette année, après un culte classique, il ne s'est pas arrêté pendant 15 jours. Nuit et jour, jusqu'à ce que l'université mette fin à ce rassemblement. En effet, des milliers de personnes, jusqu'à 150 000, se réunissaient là pour adorer Dieu. Je suis allé voir, par curiosité, ce qu'il en était et voir des vidéos de ce phénomène. Alors, ce réveil n'est pas de Dieu. D'abord parce qu'il y a des femmes pasteurs. Ne sursautez pas sur vos chaises, ceci n'est pas de moi, mais d'un internaute ultra-conservateur. Cool. Anna, je suis très content quand tu prêches. Alors c'est marrant, parce que dimanche dernier, je n'ai pas assisté au message de Laurent, parce que je faisais l'église junior. Et je n'ai donc écouté ce message que le mardi. Mais moi, j'avais déjà préparé ce message, il était déjà fini, quand j'ai entendu la prédication de Laurent sur le ministère féminin, et en particulier le ministère pastoral. Bien entendu, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Alors donc, cet internaute ultra-conservateur disait que la preuve que ce réveil n'était pas de Dieu, c'est qu'il y avait des femmes pasteurs. Puissant comme argument, hein ? Alors, plus sérieusement, j'ai regardé des vidéos, et en particulier la vidéo de Florent Varac, qui était pasteur de l'église protestante évangélique de Villeurbanne, et qui est connu pour avoir peu de complaisance envers les mouvements charismatiques, et qui a observé ce phénomène. Il reconnaît que ce phénomène, ce mouvement, est possiblement impulsé par Dieu. Un vrai réveil, en quelque sorte, comme il y en a eu dans l'histoire évangélique. Car ce mouvement, à l'origine, n'est pas charismatique. Tout se fait simplement dans le calme, la prière, l'adoration, la louange. Il n'y a pas de débordement, d'excentricité, même si certains se font remarquer par leur exaltation. Florent Varac demande à examiner les esprits et retenir ce qui est bon, à être prudent, mais à ne pas faire obstacle à ce qui pourrait bien être un vrai réveil. Il dit que le temps montrera ce qu'il en est exactement. Je voudrais donc parler du réveil. Qui dit réveil sous-entend que les églises sont endormies ou tout au moins assoupies. Or, beaucoup d'églises vivent des choses fortes, bénies, encourageantes. Mais ce n'est pas encore ça, le réveil. Je me réjouis de ce que notre Église vit ces choses fortes, avec des bénédictions. Nous avons beaucoup de nouvelles familles, de personnes qui nous rejoignent, beaucoup d'enfants à l'église junior, ce qui a aussi d'ailleurs contribué à la présence de ces nouvelles familles. Le groupe de jeunes est formidable, jusqu'à 25 personnes qui la fréquentent, dont certains viennent d'autres églises. L'église est souvent pleine, il y a une bonne communion fraternelle. L'Église est bien vivante, avec de nombreuses activités, dynamiques, de la reconnaissance de tous, et nous avons eu pas mal de baptêmes et quelques conversions. Dans son rapport moral, lors de l'AG du dimanche 12 mars, Laurent nous a parlé de l'engagement de notre Église. Et il a cité à juste titre plusieurs items. Participation active des jeunes à Connexion ou Jésus Festival ou à Chambéry Je t'aime, plus le quiz biblique qui a été un temps fort, engagement de la jeunesse dans l'Église et au niveau de la fédération, engagement de nos enfants à l'Église junior, ils sont nombreux, on le voit le dimanche, 4 classes plus la garderie. Une 12aine de baptêmes nous avons eu récemment, en quelques mois, et 3 jeunes la semaine prochaine. Je vous y invite d'ailleurs. Engagement dans la mission. Notre Église est la première de loin en termes de dons à la Fédération des Églises Baptistes. Plusieurs missionnaires de notre Église sont issus de notre Église. Marjolaine Roux, Bruncher, qui sera le prochain pasteur à Grenoble. Alléluia. Nathan Minard au Cameroun. Chloé Lebas à Jeunesse en Mission. Paul Destournel, qui est pasteur dans la région parisienne. Jean-Marc, agent de la Ligue. Elodie Harbin, missionnaire à mi-temps à Nice, dans le Café Alfred. Engagement aussi de notre Église dans la ville, dans les associations caritatives ou municipales. Nous avons plusieurs conseillers municipaux parmi nous. Engagement au sein de la Bège avec de nombreuses activités socio-culturelles. 7 groupes de quartier où la parole est partagée. Soirée couple, contact chrétien féminin. Engagement aussi de plusieurs de nos membres comme directeur ou animateur de camp. Et cependant, il n'y a pas à proprement parler d'évangélisation. De témoignages publics, comme l'Église en a eu il y a quelques années, quelques décennies même, sur les places publiques, sur le marché, dans des salles. La plupart de nos baptisés viennent de familles chrétiennes. L'Église a grandi en particulier par l'apport de personnes issues d'autres églises. Quelques conversions néanmoins, on l'a dit tout à l'heure, parmi les jeunes, et d'autres qui suivent des cours bibliques personnalisés. Bien sûr, il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé à Asbury. Notre contexte culturel français est bien différent de celui de l'Amérique, marqué par la laïcité fortement et par l'indifférence ici en France. Nous vivons parfois dans un certain confort ecclésial, il faut bien le reconnaître, et c'est très commode. L'Église pourrait-elle vivre un bouleversement tel que celui de la Pentecôte ou de celui de réveil comme au temps de la Réforme ou de Pays de Galles ou en Kabylie? Seul le Saint-Esprit pourrait le conduire. Et les églises de type pentecôtiste ou charismatique peuvent en dire autant. Je me rappelle qu'au début de notre église, ici même, dans ces locaux, nous avons eu 40 jours de jeûne et de prière, nuit et jour. Chacun prenant des créneaux horaires pour prier de manière continue. Cela a été un puissant stimulant pour notre Église et des choses fortes en avaient résulté. Pourquoi ne pas envisager de nouveau une telle expérience? Je me rappelle que l'Église de Hasbury a commencé par des gens qui ont continué à prier sans s'arrêter. Et comme le livre des Actes le dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce donc qu'une Église endormie? Notre Église, je le dis tout de suite, n'est pas une Église qui dort. Une Église endormie, et cela existe même chez les évangéliques, c'est une Église qui n'a pas de communion fraternelle, pas de partage, et encore moins d'agape. Les gens se saluent à peine, et encore en partant du culte en particulier. Les nouveaux ne sont pas accueillis, ils restent étrangers, et passent sans que personne ne s'en aperçoive. Il y a souvent des tensions, de l'amertume, des refus de pardon. Elle vit sur ses acquis, refuse de changer ses traditions, de se remettre en question. Elle ne veut pas innover. Elle n'exhorte pas, n'encourage pas. Ses messages sont souvent soporifiques. La liturgie est tout ce qu'il y a de plus classique. Elle ne fait aucune évangélisation. Ce n'est pas dans son programme. Elle ne témoigne pas. Et il n'y a pas de baptême, sinon dans les églises qui font le baptême des enfants. Même dans son décor, on peut voir sa léthargie. Elle n'aspire pas à la fréquenter. Une église qui vit ça est sur le point de mourir. Une église en bonne santé spirituelle est une église éveillée et non réveillée. Réveillée sous-entend qu'elle était endormie. Et dans ce cas, il serait bon qu'elle se réveille. Éveillée signifie qu'elle se tient constamment en éveil. Non seulement qu'elle est vivante, car ceux qui dorment sont vivants, mais qu'elle est dynamique, qu'elle se nourrit et s'entretient, cultivant les pôles de la communion fraternelle et de partage, accueil des nouveaux, annonce et amour de la parole de Dieu, adoration et louange, témoignage, reconsécration, repentance, j'insiste là-dessus, confession des péchés, activité sociale, engagement des jeunes, éducation des enfants, groupe de quartier. Avec en plus un aspect communicatif marqué où la joie et l'enthousiasme se passent comme une conduction électrique contagieuse. Et je ressens ça lors des soirées louanges. Une église éveillée est une église où il fait bon venir et même où il fait bon s'y engager. Car on a envie de prendre part à l'édifice, de ne pas passer à côté de cette œuvre divine. Jésus nous dit « Veillez et priez en tout temps ». On parle beaucoup actuellement de wokisme ou de stay woke, ce qui signifie rester éveillé. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit et ça n'a pas du tout la même signification qu'à notre époque moderne. Il nous exhorte à ne pas nous laisser assoupir dans la routine d'église, prélude à la somnolence, d'être vigilant, sentinelle, sur ses gardes, afin de ne pas succomber aux tentations ou à la facilité. Paul, dans les Thessaloniciens, dit « Priez sans cesse ». Un bémol néanmoins en ce qui concerne la réunion de prière qui pourrait être plus fréquentée. Si pour le monde, le nerf de la guerre, c'est l'argent, pour le chrétien, c'est la prière. Le réveil d'Asbury a commencé par la prière et la louange. Je me réjouis des soirées louanges que l'Église vit de manière profonde et conduite par l'Esprit de Dieu. Qui sait si le Seigneur ne va pas faire des miracles? Le réveil, disait Roy Essien, qui a écrit le célèbre livre « Le chemin du calvaire » que je vous recommande, dit « Ce n'est pas le plafond qui s'envole, c'est le plancher qui s'effondre ». C'est-à-dire qu'avant toute exaltation du salut, il faut passer par l'effondrement de ses propres valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, souillé par le péché, c'est-à-dire passer par la repentance. Le réveil d'Asbury a commencé par la confession des péchés, les uns des autres. Pas de réveil sans repentance, sans remise en question de soi, sans changement radical en soi. Et cela vaut au titre purement individuel. Une conversion doit passer par une repentance avant d'accéder à une nouvelle vie. Mais aussi un réveil personnel doit passer par un retournement de ses propres valeurs, de se recentrer sur Dieu. Un autre a dit « Le réveil, ce n'est pas la manière dont on saute, mais c'est la manière dont on retombe et ensuite de marcher. » C'est-à-dire de se mettre à l'œuvre une fois le changement opéré en soi. Cette mise en marche est toujours possible pour une Église qui, bien que vivante, s'est enfermée dans une routine, un train-train confortable. Et toute Église, dont la nôtre, peut être tentée de se satisfaire de cet état de stagnation. Une bicyclette ne tombe que si elle est arrêtée. L'Église doit donc veiller, selon l'exhortation du Seigneur, tout comme le fit le peuple d'Israël, sous l'impulsion de Néhémie et d'Esdras, pour la reconstruction des murailles de Jérusalem et du temple détruit. Le temple de Jérusalem avait d'abord été reconstruit après le retour de la captivité d'exil à Babylone. Il est écrit : tous ceux dont le cœur, dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Esdras en fit ensuite la dédicace pour célébrer ce moment solennel et avait encouragé le peuple à se réjouir. Il est écrit : les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Ils le firent avec joie pendant 7 jours. Quelques 20 ans plus tard, Néhémie reconstruit les murailles de Jérusalem. Et là encore, il y eut de grandes réjouissances. Il fit la lecture du livre de la loi de Moïse et il dit : le peuple s'assembla comme un seul homme. Esdras éleva le livre. Et tout le peuple se tient en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains : Amen. Et ils s'inclinèrent le visage contre terre. Il dit : ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dans ces deux cas, il y a eu d'abord la repentance, puis une reconsécration, et ensuite de grandes réjouissances. Imaginez-vous avoir été privé de temple et de la parole de Dieu pendant des années, voire des décennies, comme c'est le cas dans certains pays de persécution. Et ensuite de retrouver une pleine liberté et de vivre la communion fraternelle de l'Église autour de la Bible. Imaginez la scène avec une profonde effusion du Saint-Esprit, des confessions, des repentances, des chants, de l'adoration, la lecture de la parole, un respect du lieu de culte, une cohésion du peuple de Dieu, un amour fraternel, un recentrage de sa vie sur l'Éternel. Lorsqu'on est passé par un réveil personnel lors de notre conversion, même si celle-ci a duré un certain nombre de temps, par une prise de conscience progressive, il y a eu un avant et un après. Le cœur a été changé, la vie transformée, le chemin s'est inversé, nos choix et notre vision des choses ont été modifiés, voire chamboulés. Nous n'étions plus les mêmes, nous étions différents. Le vieil homme est devenu nouveau, avec un esprit nouveau. Or, un chrétien qui n'est plus différent d'avant est un chrétien qui est revenu aux choses anciennes. Il a revêtu le vieil homme, qui somme toute n'était pas si mal, s'accommodant de ses anciennes habitudes, de son ancienne façon de fonctionner, tirant profit de ce nouvel état et ressemblant à celui d'avant la conversion, au point que le monde ne remarque plus sa différence. Et si l'ensemble des chrétiens d'une église est dans cet état, alors l'église s'est en effet endormie. Elle a perdu sa passion, sa vocation, sa vision. Elle gère le quotidien, ressemble davantage à un club d'amis plutôt qu'à une armée de combattants. Nous ne devons pas, mes frères et sœurs, en arriver là. Gardons-nous de la routine, du confort, de l'autosatisfaction. Soyons vigilants. Nous devons marcher et ne pas nous arrêter. Le combat n'est pas terminé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Jésus le disait, « Soyez sel de la terre et lumière du monde. » Quand j'étais jeune, je fréquentais un groupe de jeunes sympas, catholiques, j'étais catholique. Mais nos échanges et nos rencontres étaient amicales, simplement. C'était sur le conseil du prêtre. Nous faisions des randos, des bivouacs, nous chantions Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Georges Brassens, Hugo Frey, mais rarement des chants chrétiens. Dieu était le plus souvent absent de nos discussions, bien que nous allions à la messe. Mais j'avais soif d'entendre des choses bibliques, de connaître Dieu personnellement. À la fin de l'année scolaire, nous avions eu une rencontre festive entre jeunes. Là, j'ai assisté à une scène digne de l'esprit du monde. Les jeunes fumaient, buvaient, draguaient, déconnaient. C'est pas interdit hein, de déconner. Et je me suis dit que finalement, les chrétiens agissaient exactement comme tout le monde. J'étais perturbé et perplexe. En quoi Dieu avait-il changé nos vies de chrétiens? Je suis allé dans ma chambre d'étudiant et j'ai prié à genoux en disant à Dieu, « Seigneur, si être chrétien, c'est être comme tout le monde, bah, on n'a qu'à être comme tout le monde, c'est tout, il n'y a pas besoin d'être chrétien, c'est moins hypocrite. » Autant agir comme tout le monde. Mais si tu ne te révèles pas à moi, alors moi je peux perdre la foi. 6 jours après, Dieu m'a fait rencontrer un étudiant chrétien qui a parlé de Jésus-Christ dans un amphithéâtre de médecine devant 200 personnes. Je me suis dit, celui-là, il est différent. J'ai rencontré le groupe qu'il fréquentait. Ces personnes confessaient ouvertement Jésus-Christ. Ils chantaient Dieu dans des louanges. Ils parlaient de la Bible et la méditaient. Ils vivaient Dieu. Ils respiraient Jésus. Ils avaient le courage, malgré de parler de Dieu, même s'ils se faisaient moquer ou ridiculiser. Mais ils persévéraient dans leur témoignage. Ils étaient en effet différents. Je voyais le témoignage qu'un chrétien est et doit être différent. J'avais trouvé ce que je cherchais et je me suis converti, et cela fait 48 ans. Mes anciens amis n'ont pas compris, ma famille non plus. Nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. Le monde avait pâli à la lumière du Christ. Bien-aimés, nous devons être différents, parce que cela n'est pas écrit sur notre front que nous sommes chrétiens. Cela doit se voir par notre comportement, nos paroles, nos choix, nos priorités. Cela peut irriter, cela peut même déranger, mais cela aussi peut toucher. Et rien ne vaut le témoignage d'une vie en cohésion avec sa foi. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Romains 12 nous dit, « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice, parce que c'est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, pardon, de l'intelligence. C'est pareil d'ailleurs. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Colossiens 3 nous dit aussi, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et dans les Éphésiens, il est dit, revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors je le dis à tous ici, et surtout aux jeunes, soyez différents, en ce sens que vous n'êtes plus du monde, bien que vivant dans le monde. Ne vous conformez pas à la majorité, car votre lumière sera tamisée par le nombre, si ce n'est étouffée par son obscurité. Vous ne devez pas être des thermomètres qui indique l'état ambiant, mais vous devez être des thermostats qui impriment la température du lieu. Jésus disait que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors quand je dis « soyez différents », je ne dis pas « soyez ringards ou déconnectés », hein, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas ne participez à rien avec vos amis, au contraire, ni étrangers à ce qu'ils vivent. Je dis que par votre attitude, votre comportement, vos paroles, on puisse remarquer que vous êtes digne de ce que vous croyez. Vous respectez votre Dieu, vous rejetez ce qui est mal, vous ne cautionnez pas la méchanceté ni la perversion, surtout dans les réseaux sociaux. Combien de jeunes ont été touchés par le témoignage d'un ami, d'une amie, pas comme les autres? Combien de conversions suite à une parole gentille de réconfort, une invitation à une rencontre pas comme les autres? Si nous sommes une église éveillée, sommes-nous pour autant arrivés? Loin de là. Le Saint-Esprit n'aurait-il plus rien à nous dire? La parole de Dieu serait-elle devenue obsolète? Non, Dieu n'en a pas fini avec nous. Deutéronome 12 dit, vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit aussi, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Ce repos dont nous goûtons aujourd'hui les prémices nous est réservé dans les cieux. L'Église est en marche, elle regarde vers l'éternité. Elle doit rester éveillée et s'exhorter à l'être, avancer vers la sanctification et la plénitude. L'annonce de la parole est essentielle en son sein. La communion fraternelle est aussi là pour nous encourager à vivre de force et d'espérance dans la vision céleste du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que personne ne soit trouvé nu. Une église éveillée est une église joyeuse où il fait bon venir rencontrer le Seigneur. Alors nous allons passer un moment en prière et en adoration. Nous allons tous nous lever et nous allons faire un grand cercle le long du mur dont vous allez vous déplacer et vous allez faire un grand cercle en vous tenant la main. Pour ceux qui ont du mal à rester debout, je vous demanderai de vous mettre sur les chaises les plus externes afin que vous puissiez donner la main à ceux qui seront debout. Allez, levez-vous. Non, mais voilà, les gens qui ont du mal à rester debout peuvent se mettre sur les dernières chaises, simplement. Vous allez faire un grand cercle. Vous allez vous tenir la main les uns les autres. Oui, là-haut aussi, vous pouvez le faire, très bien. Et puis, on va chanter deux chants. Nous allons chanter une chaîne d'amour et ensuite, tous unis dans l'esprit, Alors l'équipe, voilà, de chant peut nous accompagner. Ensuite, une fois que nous aurons chanté ces deux chants, vous êtes invités à prier spontanément, à entonner un autre chant, à confesser vos péchés. Voilà. Que nous puissions sentir le Saint-Esprit nous unir tous, afin de l'adorer en esprit et en vérité. Et je m'intègre.
Nous sommes unis. Timothée, c'est le chant de Timothée. Il y a un chant avant.
Gloire au Dieu.